Laurence Aloha. Tegi Mfatrore. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans les musiques du monde. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à Mori Kanté avec un entretien que Vladimir Cagnolari avait réalisé en 2017 à Paris, où le maître Griot lui avait raconté quasiment toute sa vie, du village à Bamako, d'Abidjan à Paris. Ouverture de l'émission avec Sofian Fanen, qui présente sa sélection du mois de juin 2020, je précise, avec Sébastien Forester, Fiona Apple, Eddie Campo et Moses Sumney. Bonsoir. Moses Sumney sur RFI dans les musiques du monde avec le titre Cut Me, cet extrait de l'album Grey. Et c'est Sofian Fanen qui fait sa programmation directe de chez lui puisque nous sommes au téléphone pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. Comment allez-vous, Sofian?
Ben, ça va très bien, écoutez. Je suis content d'être au téléphone avec vous à défaut d'être là en chair et en os dans le studio.
Ça vous change de faire l'école à la maison, je sais.
Oh oui, beaucoup de travail entre les articles.
Bon, Sofian, Moses Sumney, nouvelle voix de la soul américaine, mais je vous laisse le soin de nous vanter les mérites de ce garçon. Il n'y a pas, du reste, pas besoin de les vanter puisque nous venons de l'écouter, donc on sait maintenant.
C'est beau, hein, c'est beau, c'est très beau.
C'est superbe.
C'est vraiment l'un des très beaux albums du confinement, on va dire, de cette période un peu particulière, qui nous a quand même accompagnés pendant ces journées. Moses Sumney, il n'est pas tout nouveau, hein, il est apparu en 2014 avec son premier album. Vous voyez, il a quand même mis le temps avant d'en sortir un deuxième. Il a 29 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a commencé très jeune, qui est très décidé et qui fait une soul... très moderne. Alors là, le morceau Cut Me est assez classique dans son déroulement, mais dans cet album, qui s'appelle donc Grey, il y a vraiment des aventures sonores qui sont extrêmement courageuses et qui en même temps ne mentent jamais sur la préoccupation mélodique, sur une douceur, sur les textes aussi qui sont assez forts. C'est un disque qui est entièrement tourné sur une notion de ce qu'il a appelé la grayness, c'est-à-dire la zone grise de toute chose. La sexualité, la couleur de peau et le caractère de quelqu'un. Comme Moses Sumney explique, qui est très intéressant, il dit « Dans le monde d'aujourd'hui, il faut arrondir les angles pour que la société vous accepte. Mais si moi, je n'arrondis pas les angles, si je suis tel que je suis, pourquoi je ne suis pas accepté non plus ?» C'est au milieu de tout ça, vraiment un très 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 beau disque de soul. C'est un disque très copieux, d'ailleurs, qui est sorti en deux fois. Il a sorti les 8 premiers morceaux au mois de février, les derniers, il y a quelques semaines, pour nous laisser le temps un peu de digérer et puis de vivre un petit peu avec sa musique. Et vraiment, c'est un disque qui vaut tout le temps qu'on y passe.
Alors, je crois que Moses Sumney est originaire du Ghana. Écoutez, la transition est parfaitement maîtrisée puisque le groupe suivant est un groupe ghanéen. C'est une réédition et le groupe s'appelle Eddie Campo. C'était le groupe Eddie Camfo sur RFI dans les musiques du monde avec le titre, Kabom. L'album s'appelle The Pace Setters, Pace Setters. Je ne sais pas comment vous voulez prononcer, Sofian Fanon.
The Pace Setters, en fait, c'est visiblement Eddie Camfo veut dire The Pace Setters, c'est-à-dire ceux qui donnent le tempo. C'est le groupe s'est donné ce nom et il a donné son nom en anglais à son premier et son unique album qui est sorti en 1981. C'est vraiment une découverte, hein, pour moi. C'est une réédition qui vient de sortir et c'est vraiment une découverte parce que en fait cet album n'était plus du tout disponible. Moi, je l'avais jamais entendu. L'histoire d'Eddie Camfo, c'est vraiment une grande histoire ratée. C'est-à-dire que c'était une sorte de super groupe, des musiciens très 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 solides qui tournaient dans les clubs d'Accra, qui jouaient beaucoup, qui ont tourné avec Hugh Masekela jusqu'aux États-Unis, qui étaient vraiment un peu des stars de l'époque et qui avaient été rassemblés par un producteur pour enregistrer un disque sous la direction de Brian Eno, producteur britannique, qui à l'époque rêvait de travailler avec des groupes ouest-africains et notamment avec Fela Kuti. Ça s'est pas fait parce qu'il se passait autre chose en ce moment à ce moment-là au Nigeria, et il a terminé avec ce groupe Eddie Camfo au Ghana, et il les a plutôt aidés à mettre en son plutôt que produits, parce qu'en fait, il s'est aperçu très tôt que le groupe était tellement fort et tellement en place, et tellement que les morceaux étaient déjà tellement puissants qu'en fait, il fallait juste les enregistrer correctement et qu'il n'y avait rien à rajouter. Brian Eno leur a fait un son incroyable, et cet album est sorti, il a commencé à vivre sa vie, et il y a eu un coup d'état supplémentaire au Ghana qui a tout stoppé et qui a empêché le groupe de tourner en Europe, d'aller défendre son album, et les musiciens, après, ils avaient besoin de vivre, de reprendre du travail, donc ils se sont éparpillés, ils sont allés faire d'autres choses, et ils n'ont plus jamais joué sous le nom d'Eddie Camfo, ils n'ont plus jamais enregistré également après, et voilà, cet album raconte ce moment raté, et le disque est magnifique, mais du début à la fin, avec cette grande puissance funk, j'aime bien ce son qui... On est presque dans ce qui va devenir la house music, on est après le disco, on est déjà dans un son très mécanique dans la rythmique. C'est extrêmement troublant d'ailleurs, ça ressemble vraiment à ce qui se passait au même moment à New York. Et là, c'est la version ghanéenne de cette affaire-là.
On peut peut-être espérer qu'avec cette réédition chez Glitterbeat Records, que ceux qui restent, les survivants de Eddie Camfo, puissent retourner sur scène, puissent repartir à l'abordage. Qui sait ?
Oui, effectivement. Alors, certains sont décédés malheureusement depuis 1981, mais il reste pas mal de membres du groupe et ils ont l'intention visiblement de reprendre la scène, de enfin partir en tournée pour défendre cet album, ça va être assez touchant, et d'en sortir un nouveau. Donc on les attend vraiment de pied ferme, peut-être que Brian Eno peut revenir les aider à faire un deuxième album, ça serait un bon retour de l'histoire.
Chiche. Fiona Apple, c'est sur RFI dans les musiques du monde.
On my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I use my feet to crush dead leaves like a fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class, I pass the time, drawing a slash for every time. Secondhand went by a group of five, done 12 times, just a minute. But Shamika said I had potential. 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 I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five, done 12 times, was a minute, but Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential.
C'était un extrait du tout nouvel album de Fiona Apple. L'album s'appelle Fetch the Bolt Cutters. Le titre qu'on a écouté, c'est Jamaica. Fiona Apple, États-Unis. Fiona Apple, qui a le verbe assez vert, qui parle, qui dit ce qui lui plaît pas, ce qui va pas. Sur un album, elle raconte son viol, etc. Enfin, elle est assez cash comme fille. Ça continue, Sofian Fanon?
Ah oui, ça continue. D'ailleurs, on ne va pas lui demander d'arrêter. C'est ce qui fait le caractère de sa musique depuis ses débuts. C'est quoi, 96, ce premier album qui avait surgi nulle part, comme ça, avec cette personnalité. Depuis, elle a vieilli, elle a grandi. Elle a quoi, 42 ans aujourd'hui. Et elle a mûri aussi. C'est un cliché de le dire, mais c'est vraiment un album... non pas de la maturité, etc., ça serait une bêtise, mais de dire que c'est un album où elle est pleinement maîtresse de ses sentiments. Et c'est vrai que Fiona Apple a beaucoup raconté effectivement ce viol qu'elle a subi quand elle avait 12 ans, qui est vraiment le cœur de ce qui la bouge comme femme et comme artiste depuis le début de sa musique. Et là, en fait, dans cet album-là, elle est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, j'ai pas envie de passer ma douleur, j'ai même plus envie de penser à tout ça, j'ai envie de dominer tout ça. C'est vraiment un album qui dit ça. D'ailleurs, le titre de l'album, c'est Fetch the Bolt Cutter, c'est-à-dire attrape le coupe-boulon, quoi. C'est-à-dire on va se libérer de la cage où on est pour avancer et pour être nous-mêmes différemment, voilà. Et au milieu de tout ça, elle fait aussi un album qui est musicalement d'une puissance rare, quoi. C'est vrai que c'est un très 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 bon disque avec énormément de percussions, beaucoup plus que d'habitude, un disque très très organique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a travaillé son disque, elle s'est fabriquée chez elle en Californie une pièce entièrement recouverte de percussions, de cymbales, etc., mais le mur, le plafond, les étagères, le sol, partout. Et elle a travaillé dans cette pièce-là, une sorte de pièce à percussion, et c'est là où elle a tout enregistré, les démos, avant de revenir en studio pour faire ça différemment. Et ça donne un son très particulier à ce disque, très très organique. Et j'aime beaucoup cette chanson, la Chameika aussi, où elle raconte... Donc Chameika, c'est une copine de collège qui un jour est venue la voir en disant « Mais pourquoi t'essayes de traîner avec les filles à la mode? Là, c'est pas du tout ton truc. Tu as du potentiel. » Et elle dit, Chameika, elle est venue me dire ça une fois et en fait, on s'est jamais vraiment reparlé. Et elle a changé ma vie en me disant ça, en fait. Et elle y repense, là, aujourd'hui, dans cet album-là. C'est assez, assez beau. C'est un beau disque de quadra en pleine maîtrise, en pleine possession de ses moyens musicaux, mais aussi, j'allais dire, politiques et humains. C'est un très, très bon disque.
Sébastien Forester, c'est le choix suivant de Sofian Fanon. Il s'appelle Sébastien Forester, l'album c'est Spirale, et ce qu'on vient d'entendre c'est Spirale, colonne. Alors, Sofian Fanon, cet album a été fait dans des conditions un petit peu particulières, pas tout à fait en France, plutôt côté marocain.
Oui, c'est ça, c'est un album voyageur, c'est-à-dire Sébastien Forester s'est retrouvé au Maroc pendant pas mal de mois en 2019 et s'est confronté au rythme gnawa qu'on entend bien dans ce morceau. Sébastien Forester, c'est quelqu'un qui régulièrement s'intéresse à des rythmiques. Avant de s'intéresser à des cultures, c'est vraiment une question de rythmique, c'est quelqu'un qui a cette oreille-là et qui va aller essayer de brancher ça sur sa musique à lui. Il ne veut pas imiter. Il s'est frotté à d'autres musiques sud-africaines, à d'autres moments, etc., par exemple. Et là, là c'était le Gnawa, donc il a saisi et qu'il a mis dans sa musique avec ce côté toujours très électronique. Les morceaux partent à un moment. Ils ont ce côté très lancinant et sans fin de la musique électronique, mais qui est aussi une caractéristique de la musique Gnawa. C'est pour ça que c'est très naturel tout ça. Il y a vraiment ce côté musique de trance qu'est la musique Gnawa et qu'est aussi la musique électronique. Donc tout ça est très très naturel. D'ailleurs, il y a déjà eu pas mal de tentatives hein, entre les percussions Gnawa et les musiques électroniques ou avec le jazz auparavant. Cette envie de profiter de cette musique qui n'en finit jamais et sur laquelle on peut danser puis on peut se perdre un peu toute la nuit. Sébastien Forester en fait, je trouve, un bon album, La Spirale, là, que je commence à... Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je commence à l'apprécier de plus en plus. Là, c'est l'un des morceaux les plus mélodiques du disque parce qu'il est chanté. Il a travaillé là, avec une chanteuse marocaine qui s'appelle Glitter, qui est basée à Paris, hein, sur ce morceau qui s'appelle Spiral Column. Sur le reste de l'album, il y a aussi la guitare de François-Anne et Atas Mountain. Il y a pas mal de monde comme ça. C'est vraiment un très beau disque de musique électronique pour s'évader un petit peu et pour... quand on reste à la maison toute la journée, ça fait du bien, je ne vous cache pas.
On va terminer cette programmation signée Sofian Fanon avec un groupe qui s'appelle 24 Karat Black, ça veut dire noir 24 carats, quelque chose comme ça.
Oui, c'est un projet, alors c'est un projet moi qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est en fait c'est un garçon qui s'appelle Del Warren qui était un arrangeur de cordes pour Motown, pour Stax, qui a travaillé pour Isaac Hayes, etc., qui était un faiseur, on va dire, dans les studios, et qui à un moment s'est pris de grandeur dans les années 70 et a enregistré un disque pour Stax qui s'appelle Ghetto Misfortune Wealth, désolé pour l'accent anglais, qui a été un peu enterré par Stax et qui est devenu petit à petit un disque vraiment culte pour les gens qui aiment la soul et pour les gens qui pour toute la génération hip-hop aussi, parce que c'était un disque une sorte de symphonie noire américaine très ancrée dans la soul, le gospel, le funk et qui racontait la vie dans le ghetto dans les années 70 dans un ghetto noir américain. C'était un disque très dur, très 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 sombre et il a continué après ça à enregistrer d'autres morceaux mais qui sont jamais sortis à l'époque. Il a continué avec son groupe à enregistrer d'autres albums qui sont pas sortis et en fait c'est l'un des musiciens qui s'est rendu compte au bout de décennies qu'il avait des bandes de ce projet dans son sous-sol. Il avait complètement oublié ça, en fait il avait ramassé ça avant qu'un studio ferme et depuis quelques années Numéro Group, qui est un très bon label américain de réédition, sort comme ça des disques de 24 Karat Black et là l'album s'appelle Third Three et il est extrêmement doux, extrêmement épuré, beaucoup de cordes, effectivement on est plus dans un truc de gospel que dans la noirceur du premier album officiel de 24 Karat Black et tout ça s'emboîte. On commence à avoir une trilogie désormais du coup de 24 Karat Black et c'est vraiment une trilogie somptueuse de la noirceur à la beauté finale de cette dernière version qui s'appelle Third avec ce morceau qui s'appelle I Need a Change qui est doux comme la douceur dont on a vraiment besoin.
Being sad and blue, I need a change.
La programmation de Sofian Fanon sur RFI dans les musiques du monde. Merci Sofian.
Merci.
Allez, à très vite. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
Ciao. Tous les artistes sélectionnés par Sofian Fanon sont bien sûr sur la page d'accueil de l'émission.
Bonjour.
Bonjour Maury. Ce début d'année a été une hécatombe dans le monde de la musique. Le continent africain a payé un lourd tribut. Manu Dibango, Tony Allen, Idir et Maury Kanté qui est parti le 22 mai dernier à Conakry. En 2017, Vladimir Cagnolari fait une interview fleuve du griot guinéen à l'occasion de la remise du Grand Prix SACEM Musique du Monde. Maury Kanté est comblé, il est heureux, c'est l'aboutissement d'une carrière.
Ça va bien, ça va bien.
En 2017, ça va bien. Et nous vous proposons quelques extraits choisis de cet entretien. Évidemment, nous ouvrons avec le morceau magique, le tube des années 80, Yeke Yeke. Et vous aurez une surprise en fin d'émission. Morikanté, le griot. Morikanté, c'est une histoire de l'Afrique à lui tout seul. Le Mandé, l'Empire Mandingue, la Guinée, le Balafon, la Kora, l'Initiation. Alors, bien avant que Philippe Constantin, le producteur, le découvre en concert à la Mutualité en 84 à Paris, il y a le Morikanté qui vient du continent africain. Il paraît que c'est le petit dernier d'une fratrie de 38 enfants. 38 enfants, vraiment ?
Oui, pas tout à fait le dernier, mais on était les avant-derniers enfants d'une grande famille. Et mon père a vécu 109 ans, ma mère a vécu 93 ans. Vraiment, mon père, ce fut les griots, ces griots-là qui sont les compagnons de l'indépendance de la Guinée. Avec le président Ahmed Sékou Touré, j'ai vu beaucoup à suivre la culture. Autant, j'ai même eu un frère qui fut ministre de la culture en Guinée, Kanté Fasséli, qui était le directeur artistique des ballets, des grands ballets africains. Il fut nommé ministre par le président Ahmed Sékou Touré et il venait de Prague et il a fait un accident d'avion à Casa. Il est décédé. Bon, donc celui-là est le premier fils de mon père et il a fait des enfants, des grands artistes en Guinée, le Kanté Mamfla, de Bala et ses baladins. Il a eu Sékou Kanté, Kanté Diarra, l'un des meilleurs guitaristes de la Guinée, et Kanté Djelilaï aussi, un grand guitariste, et une grande sœur qui s'appelle Mama Kanté, la plus grande cantatrice en Guinée. Elle était incroyable, mais vraie, une grande dame. Ça fait des enfants aussi qui ont été ingénieurs, qui ont été... Hein? Et moi, je suis un musicien. Moi, on m'a enlevé de l'école pour m'envoyer au Mandingue pour apprendre mon métier, la tradition orale, et d'être un vrai griot, ou sinon un grand griot. Mais le métier de la musique a prévalu sur mon métier, qui est d'être un griot, mais quand même j'ai fait connaître les griots sur cette planète Terre, ça je l'ai fait. Ah, oui.
As-tu jamais entendu parler de Kanté Fasséli? Kanté Fasséli fut un très grand guitariste africain. Sa guitare sous le bras, il fit le tour du monde. Il a chanté l'Afrique et sa Guinée natale. Tout Paris l'applaudit dans la troupe de Keita Fodeba. Les foules en l'écoutant rêvait de nos rivages. Sa guitare sous le bras, il fit le tour du monde. Il a chanté l'Afrique et sa Guinée natale.
Vous parliez de Kanté Fasséli, c'était donc votre grand frère, oui. Hein, c'est le fils du même papa.
Oui.
Et c'était aussi un très bon guitariste, lui aussi.
Oui.
Et à sa mort, c'est lui qui a chanté, par exemple, Gégé Viquet,
oui,
qui a fait un hommage à Kanté Fasséli.
Oui, c'est Kanté Fasséli. Il a fait beaucoup de choses avec Keita Fodeba, qui furent aussi les ministres des nouvelles autorités de l'indépendance en Guinée, Keita Fodeba, qui était le directeur général des ballets africains. Et le grand frère était le directeur artistique, c'est lui qui a formé, je peux dire, les ballets africains, c'est lui. Il y a même certaines salles en Guinée, salles de concert, le centre Kanté Fasséli, il y en a un peu partout en Guinée. Hein? Donc,
votre maman était griotte aussi.
Oui, ma maman était une grande griotte.
C'est-à-dire que la veille de son décès...
Son décès, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Elle transpirait, elle a appelé un de ses petits-fils pour jouer le balafon pour elle. Et elle a chanté, c'était incroyable. C'était rare de la voir chanter comme ça à 93 ans. Voix accordée, le lendemain, elle est décédée. Mourir sur scène, c'est ce que j'ai vu, quoi. C'est pareil, quoi, comme, parce qu'elle n'est pas tombée malade de rien comme ça.
C'est sa manière de dire au revoir.
Au revoir.
Maurice, vous le disiez, vous, on vous a retiré de l'école pour vous envoyer faire l'apprentissage de votre vocation, qui était le griot. Oui. On vous a envoyé où?
On m'a remis à ma tante. Cette tante-là, elle est de même mère et de même père que ma mère, qui s'est imposée au Mali. C'est incroyable, mais vrai. C'est Manamba Kamisoko est connue de tous au Mali. Toutes les Maliennes et tous les Maliens la connaissent. Une grande griotte, une grande chanteuse, c'est inimaginable.
Donc c'est au Mali qu'on vous a envoyé chez elle?
Au Mali, on m'a envoyé, et elle aussi, elle m'a envoyé en brousse. Ça, c'est des détails qui sont un peu difficiles à raconter.
Pourquoi?
C'est très sérieux. Donc, on m'enlève à l'école comme ça. J'ai eu mon certificat d'études primaires. On m'enlève à l'école, on dit, bon, lui, il est choisi pour aller. Il est intelligent, j'étais très intelligent à l'école. Mais j'étais le petit chanteur de l'école à Kissidou. À Albadéria, j'ai commencé. Après, je suis venu à Kissidou chez mon père. Mais il n'y avait que la musique dans ma tête. Même en classe, je chantais. Je chantais et j'avais toujours des problèmes avec les maîtres. Donc, et quand même, je n'ai jamais doublé une classe. Donc j'étais tout le temps parmi les meilleurs élèves parce qu'il y a un livre, le syllabaire, Mamadou et Binota sont devenus grands. Moi j'ai biché ce livre-là.
Comme tant d'enfants en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale qui ont travaillé avec ce livre.
Oui, avec ce livre-là. J'ai biché ce livre et j'étais très intelligent, mais je passais la plupart des temps... soit avec la guitare, soit avec le balafon, soit, bon, on avait des oncles aussi qui nous faisaient la troisième école. Il y a l'école coranique, il y a l'école
des Blancs
et l'école de la tradition orale. La tradition orale, c'est la plus difficile, quoi.
Finalement au Mali. Il faudrait que vous nous racontiez comment vous entrez dans le Ray-Ban.
Avant de rentrer dans le Ray-Ban, après le séjour Manding, et c'est là que j'ai rencontré le vieux Batrou Segou Kouyaté qui m'a donné cette chorale-là. Et c'est là où j'ai formé un groupe qu'on appelle le groupe Apollo. Et le groupe Apollo, j'ai eu tellement de succès. C'était incroyable, mais vrai. Pour que j'adhère au Ray-Ban, c'était un problème. Parce que j'étais bien, je marchais. Il y a les filles qui refusaient leur mari.
À cause de vous?
À cause de moi. On dit, vous aimez votre mari? Elle dit non, je ne l'aime pas parce qu'il n'a pas pris Mouri pour mon mariage. Ça s'est fait plusieurs fois.
Vous étiez au balafon, vous?
Non. En ce moment, j'étais chanteur, j'étais guitariste. Pas au balafon. J'ai été guitariste dans le Ray-Ban. J'étais un guitariste et un chanteur. Bon, on m'a forcé de rentrer dans le Ray-Ban.
Comment on vous a forcé?
Non, ils sont partis voir ma tante. Ils disent que vraiment, votre petit là, il a du succès, il chante bien, il est un bon guitariste. Est-ce qu'on peut le mettre dans le Ray-Ban? En ce moment, Salif était dans le Ray-Ban. Il était le chanteur titulaire du Ray-Ban. Bon, maintenant, comme le chef d'orchestre Tidiane Koné était vraiment quelqu'un qui était bien, un grand musicien, avec le directeur, M. Ali Diallo, qui était le directeur du Buff Hotel de la gare, ont tout fait pour que j'adhère. J'ai adhéré et ça fait vraiment mal à mes collègues d'Apollo, là. Ça les a fait très, très mal. Mais de toute façon, j'écoutais ma tante, vraiment, je l'écoutais, je la respectais. Et je suis rentré dans le Ray-Ban. Donc, j'ai amené le balafon avec moi dans le Ray-Ban, donc j'étais guitariste et je chantais. Et je remplaçais le bassiste, je remplaçais le guitariste, je remplaçais un peu les musiciens. Et là, j'avais mon répertoire. Quand je fais mon répertoire, je joue moi-même ma guitare solo, et je chantais. Bon, un jour, on est parti à Dakar. Senghor nous a invités, on est parti jouer là-bas. Et notre guitariste, Baba Nabé, a fui, il est parti au Baobab. L'orchestre du Baobab de Dakar. Et il n'y avait pas de guitariste. Donc tout de suite, le chef d'orchestre me dit, Maurice, tu prends la guitare. Je dis, non, je ne suis pas venu ici pour comme guitariste, je suis venu pour chanter. Mais s'il faut que je dis, tu es obligé, à partir d'aujourd'hui, tu es le guitariste. Tu es un guitariste chanteur maintenant. Vas-y. Et j'ai joué vraiment, tout le monde était heureux. Ça a changé l'atmosphère musicale du Ray-Ban. Et après, bon, on est venu à Bamako. Un jour, Salif, on n'a pas vu Salif, il a disparu. Là, il est parti avec mon grand frère, mon propre grand frère, Kanté Mafla. Il est parti dans les ambassadeurs. Je crois qu'il voulait qu'on me laisse la place, quoi. Moi, j'ai dit, bon, maintenant, il s'agissait de trouver un guitariste pour que moi, je devienne le chanteur leader. Et là, ça crame, hein. J'ai refusé. J'ai dit, je suis habitué à la guitare. Cherchez un chanteur, moi, je reste à la guitare. Et on m'a obligé encore. Bon, OK, ils sont partis chercher Dilimadi Tungara, qui est l'acteur actuel directeur chef d'orchestre de Super Ray-Ban. Et on a fait la passation.
À ce propos, justement, vous parliez tout à l'heure de l'histoire de Sundiata. Vous avez enregistré ce morceau, Sundiata l'exil. Ça commence par une descente à la guitare, justement, de Dialimadi Tonkara.
Oui, c'est ça.
Avant que vous ne commenciez le chant, j'en profite pour vous dire que c'est un morceau extraordinaire.
Oui.
Vraiment.
Mansa lubanga Loubana.
Oui, après le Rai Band, vous partez à Abidjan. Je voudrais que vous me racontiez un épisode en particulier là-bas. Vous jouiez avec quel groupe quand vous étiez à Abidjan?
Il faut savoir pourquoi on a quitté le Mali, aller en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas allé seul. Hein. Tous les orchestres du Mali et l'ensemble instrumental national, tout le monde, on était ensemble. Il faut qu'on paye décemment. Il y a certains chefs qui se sont fâchés et on a commencé à nous redresser. Et tout le monde a fui. Hein? Et arrivé à Abidjan, je suis parti seul. J'ai les amis dans l'avion, tous. On est venu à Abidjan, on a commencé. Et c'était extraordinaire. On a allumé la Côte d'Ivoire. Ah oui, ça, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il y avait les amis, certains qui sont là aujourd'hui, les Tian Sek. Sek Tian, il faisait partie. Et vraiment, c'était un bon groupe. Dans le Rai Band en Côte d'Ivoire fut plus fort encore que qu'à Bamako.
Mori Kanté n'a pas fait qu'éclater la Côte d'Ivoire, il a éclaté le monde entier. Et c'est ça la surprise de fin d'émission. Même les producteurs de techno se sont attaqués au yéké yéké de Mori Kanté. Preuve avec ce DJ et producteur anglo-canadien qui s'appelle Richie Hawtin, bientôt 30 ans de carrière. C'est un des 10 grands de la scène techno actuelle. Alors très tôt, il fréquente la scène de Détroit, celle de Derrick May, de Jeff Mills, de Carl Craig. Il aime aussi le minimalisme de Steve Reich et de Philip Glass. Tout ça pour dire que 20 ans après la sortie de l'original, Richie Hawtin a sorti une version afro-acid mix de Yeke Yeke et c'est ainsi que nous disons au revoir à Mori Kanté. Je sais Mori, à bientôt.
RFI.